Donc, bonjour à toutes et à tous, merci encore une fois d'être ici aujourd'hui. Donc on va faire une séance aujourd'hui sur la sunna, la notion de sunna dans le Coran. Donc là le but c'est de faire quelque chose d'assez introductif général, essayer de réfléchir sur cette notion. Et sur les autres séances jusqu'à la fin de l'année, on gardera le même thème de la sunna, sauf qu'on élargira sur la sunna prophétique et sur la figure du prophète. Alors d'abord j'aimerais commencer par le statut de l'imitation en islam et le statut de l'imitation de la sunna prophétique. Avec une première question, qu'est-ce qu'être fidèle à la tradition? Alors sur les faits que je vous ai distribués, j'aimerais qu'on parte d'une citation de John Dewey, donc qui est un philosophe pragmatiste qui s'est beaucoup occupé d'éducation et de démocratie. De la notion de démocratie. Alors je vous lis ce passage. L'imitation des fins, distincte de l'imitation des moyens qui aident à atteindre les fins, est une affaire superficielle et transitoire qui a peu d'effet sur les dispositions. Les idiots sont particulièrement doués pour ce type d'imitation qui affecte les actes extérieurs, mais non la signification de leur réalisation. Quand nous voyons des enfants occupés à ce genre de mimique au lieu de les encourager, il est probable que nous leur reprochions de se conduire comme des singes, comme des perroquets. L'imitation des moyens de réalisation est au contraire un acte intelligent requérant une observation minutieuse et un choix judicieux, de ce qui permettra de mieux réussir ce que nous essayons déjà de faire. Utilisé dans ce but, l'instinct imitatif peut, comme tout autre instinct, devenir un facteur dans le développement de l'action efficace. Alors voilà donc ce que John Dewey a réfléchi sur cette notion d'imitation. Et donc là, il distingue deux types d'imitation, donc l'imitation des fins, qu'on peut comprendre comme l'imitation, on va dire, d'un produit fini, par exemple d'une attitude finie, ou alors par exemple d'une gestuelle terminée. Donc là, ce serait plutôt une imitation, je dirais, à la lettre d'un comportement. Si on peut transposer ça du côté de la sunna prophétique, ce serait donc de reproduire la réponse qu'a donnée le prophète à une question de manière superficielle, sans interroger vraiment sur le sens profond de cette réponse, et de se comporter un petit peu comme un perroquet, de simplement imiter de manière superficielle. On a un autre type d'imitation que John Dewey nous montre ici, c'est l'imitation donc des moyens de réalisation, qui là est considéré ici comme un acte intelligent, raisonné, car cela nécessite de l'observation, du discernement, le fait de faire des choix et d'aller justement chercher le sens profond des choses. Donc là, on a plutôt une imitation, je dirais, de l'esprit, l'esprit d'une loi, d'un commandement. Dans le cas, encore une fois, de la sunna, ce serait plutôt là, essayer de se mettre dans les mêmes dispositions de réflexion du prophète, pour essayer de faire comme lui, dans le sens où lui-même est allé chercher la réponse en lui-même. Il a, de son côté, essayé de peser le pour et le contre de chaque situation et de rechercher le sens profond de sa réponse. Donc là, on est plutôt dans le cadre, je dirais, d'une imitation qui est libre et non pas d'une imitation qui est servile. Alors, bon, là, c'était simplement pour faire une introduction sur comment on peut essayer de comprendre l'imitation de la sunna, mais de toute façon, la séance du jour porte sur la sunna dans le Coran et comme sans doute beaucoup le savent, il n'y a pas dans le Coran de sunna prophétique au sens propre, au sens littéral du terme. Dans le Coran, on a deux types de sunna. On a d'abord la sunna tel awwalin, c'est-à-dire les règles et les coutumes des prédécesseurs, des premiers, des anciens. Et ensuite, on a la sunna tallah, c'est-à-dire les règles et les coutumes de Dieu. Alors, je vais d'abord commencer par la sunna tel awwalin, donc la règle des anciens dans le Coran. Je vous ai cité quelques versets qui évoquent justement ce type de sunna. Alors, je vais les lire, mais pas tous non plus, hein, parce que beaucoup se répètent un peu. Alors, donc sur la feuille, vous avez, premier verset, « Dit à ceux qui ont daigné que, s'ils renoncent, le passé sera recouvert. Et s'ils récidivaient, la coutume des premiers serait alors bien révolue. Ils ne mettront pas le dépôt confié en œuvre par lui, la coutume des premiers est certes révolue. Et qu'est-ce qui a empêché les humains de mettre en œuvre le dépôt confié, quand la guidance leur est parvenue, et de demander à leur enseigneur de les couvrir, si ce n'est d'être confronté à la coutume des premiers, ou confronté à la correction? Et par Allah, ils ont juré du plus fort de leur serment que si un avertisseur leur venait, ils seraient sûrement mieux guidés qu'aucune des autres matries. Mais quand un avertisseur leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Par auto-manification sur la terre est mauvais stratagème. Or, les mauvais stratagèmes ne cernent que leurs affiliés. Alors que considèrent-ils sinon la coutume des premiers? Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la coutume d'Allah, et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la coutume d'Allah. Donc là, ce sont les versets qui évoquent la sunnat al-awwaline. Ensuite, j'ai fait une liste des versets qui évoquent plutôt l'idée du rejet de l'imitation des générations précédentes. Donc, j'en cite simplement quelques-uns, j'en lis quelques-uns. Or, ceux qui ne savent pas ont dit « Si seulement Allah nous parlait et qu'un signe nous parvienne. » C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons certes rendu explicites nos signes aux tenants doués de certitude. Or, lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils dirent « Non point, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères. » Et si leurs pères n'avaient en rien fait le lien et ne s'étaient pas laissés guider. Des traditions de bien avant vous ont disparu. Alors parcourez la terre et observez comment la sanction des dénégateurs est advenue. Allah vise à vous éclairer et à vous montrer les traditions de ceux qui vous ont précédés et à agréer votre retour. Allah, savant et sage. Quand on leur dit « Venez à ce qu'Allah a fait descendre et au message », ils disent « Ce que nous avons trouvé chez nos pères nous suffit. » Et si alors leur père se trouvait ne rien savoir et n'était pas guidé.
Juste une question, c'est les traductions de...
J'ai mis à la fin, mais c'est de l'autre. Voilà, donc ensuite, sur la page 2, je vous en ai cité encore d'autres qui ont, on va dire, à peu près le même contenu. Alors, une première chose caractérise la sunna des anciens, c'est que cette règle est considérée en général comme révolue. Elle est considérée comme étant éphémère et soumise donc au temps qui passe. Il y a en général deux verbes en arabe qui sont systématiquement associés à cette sunnat al-awwaline. C'est le verbe madat, donc le fait de se passer, avoir eu lieu et d'être passé, et khalat, le fait d'être vide, vacant, et de n'être plus et d'être mort. Donc il y a vraiment cette notion cette période est terminée. Il y a une autre caractéristique, c'est que le fait d'imiter les anciens était dans ces versets considéré comme la caractéristique des associateurs, des polythéistes arabes du temps du prophète, qui, à cette époque, il leur était en fait reproché de ne faire que marcher sur les traces de leur père sans se demander si leur père avait raison, et donc sans avoir de recul et de sens critique par rapport à leurs ancêtres. La question qu'on peut se poser, c'est du coup, là on a un contexte précis, effectivement, ces versets s'adressaient essentiellement aux polythéistes arabes de l'époque, mais que peuvent nous dire ces versets à nous, génération actuelle? Alors selon une lecture littéraliste, on pourrait simplement considérer que ces versets critiquent les anciens polythéistes arabes, qui est ici condamné. Donc on pourrait en rester là, on pourrait se dire qu'on ne critique à ce moment-là que ces anciens comportements pré-islamiques. Mais on peut aussi avoir une lecture plutôt de l'esprit de ces versets, et de garder, qui peuvent nous enjoindre à garder un esprit critique constant vis-à-vis des générations qui nous ont précédés, et de ne pas tout accepter d'elles, ou encore d'accepter que le temps passe justement, et qu'on a différentes générations qui se succèdent, et que les choses doivent changer. Donc ça peut aussi nous mettre la puce à l'oreille quant à la manière dont on considère les anciennes générations des différents oulémas en islam ou encore des différents théologiens qui sont passés, qui sont peut-être aussi à renouveler encore une fois aujourd'hui. Alors, analysons aussi justement le propre de toute posture prophétique, donc le prophète Mohammed mais aussi d'autres prophètes qui ont tous eu une attitude, je dirais, révolutionnaire dans leur société. Qui ont tous cherché à transformer les choses dans leur société et d'avoir une attitude un petit peu de rupture justement avec la tradition qui les a précédés. Donc il y a soit l'idée où on peut s'arrêter à ce qu'a réalisé le prophète Mohammed, soit on choisit une posture progressiste où il nous faudrait au contraire poursuivre cet élan de révolution, de progrès et de changement, pour essayer de sortir de notre propre coutume actuelle et de prolonger ces innovations pour réinventer de nouvelles règles. Ces versets aussi nous posent la question de la notion de l'habitude, d'avoir la, de, d'imiter des ancêtres par habitude, c'est-à-dire de réaliser certaines actions, certains gestes, parce que les ancêtres l'ont fait, donc on le fait systématiquement par habitude. Là, j'ai encore un texte de Dewey à vous proposer, donc à partir de la page 2, qui nous parle justement de la notion d'habitude, comment on peut distinguer les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Alors, il est un peu long, mais je vais quand même vous le lire en entier pour bien que vous compreniez. Cette expression, les habitudes enracinées, est aussi utilisée pour indiquer des manières routinières de faire, avec perte de fraîcheur, d'ouverture et d'originalité. La fixité de l'habitude peut signifier que quelque chose exerce une emprise permanente sur nous, au lieu que ce soit nous qui ayons une libre emprise sur les choses. Ce fait explique deux points de l'idée que l'on se fait communément des habitudes. Leur identification avec les modes d'action mécaniques et externes au détriment des attitudes mentales et morales. Et à la tendance à leur donner une signification péjorative, à les identifier avec des mauvaises habitudes. Beaucoup de gens seraient surpris si on appelait habitude les aptitudes requises par la profession qu'ils ont choisie et penseraient naturellement à l'usage du tabac, des liqueurs ou d'un langage peu châtié, comme étant typique de la signification de l'habitude. Une habitude est pour eux quelque chose qui a prise sur eux, quelque chose dont on ne peut se débarrasser facilement, bien que le jugement les condamne. Les habitudes se réduisent à des façons routinières d'agir ou dégénèrent en façons d'agir dont nous sommes les esclaves, dans l'exacte mesure où elles perdent leur lien avec l'intelligence. Les habitudes routinières sont des habitudes non pensées. Les mauvaises habitudes sont des habitudes si éloignées de la raison qu'elles sont opposées aux conclusions du raisonnement et de la décision consciente. Comme nous l'avons vu, l'acquisition des habitudes est due à une malléabilité originelle de notre nature, à une capacité de varier les réponses jusqu'à ce que nous trouvions une façon d'agir appropriée et efficace. Les habitudes routinières et les habitudes qui nous possèdent au lieu que nous les possédions sont des habitudes qui mettent fin à la malléabilité. Elles marquent le terme de notre pouvoir de changer. Il est indubitable que la malléabilité organique tend physiologiquement à diminuer avec les années de croissance. L'action instinctivement variée de l'enfance, le désir de nouveaux stimuli et d'événements neufs passe trop facilement lorsqu'on s'installe dans la vie, ce qui signifie que l'on craint le changement en se contentant de ses réalisations passées. Seul un environnement qui assure le plein usage de l'intelligence dans le processus de la formation des habitudes peut contrecarrer cette tendance. Donc voilà, là je termine ici l'extrait. Alors ici, on a donc les caractéristiques des mauvaises habitudes que John Dewey appelle des habitudes enracinées. D'une part, ces mauvaises habitudes exercent une emprise permanente sur nous. C'est-à-dire que ce sont des actions assez mécaniques, non réfléchies, qui sont extérieures, dont nous sommes des esclaves. Ce sont des habitudes, donc des attitudes qui ne sont pas pensées. Ces habitudes rompent le lien avec l'intelligence, elles sont éloignées de la raison, éloignées de notre malléabilité originelle, c'est-à-dire de notre besoin de changer, de se transformer, de s'adapter à notre environnement. Donc elles mettent fin à notre pouvoir de changer et elles nous font craindre justement le changement. Alors par rapport à ces habitudes, on peut transposer ce cas pour le refus assez, qu'on voit assez souvent en islam d'imiter, enfin justement le besoin d'imiter les générations précédentes, les pieux prédécesseurs. On voit souvent ce refus catégorique du changement et cette volonté d'imitation mécanique d'un produit fini avec des habitudes qui sont très enracinées, qui deviennent presque parfois irrationnelles. Alors autre question du coup à partir de ça, quelles habitudes on peut choisir et vers quelle fidélité on peut se tourner ? Est-ce qu'il s'agit d'une fidélité, on va dire, où il ne faut rien toucher à l'héritage prophétique, ou une fidélité qui accepte au contraire le mouvement du temps ? Alors ensuite, je vous ai mis un extrait de Bachir Diagne, je vous laisserai le lire de votre côté. Dans cet extrait, Souleymane Bachir Diagne insiste sur deux types de fondamentalisme. Il parle d'abord d'un fondamentalisme progressiste. Pour lui, le fondamentalisme progressiste, c'est l'idée de retrouver l'esprit initial de la religion, de retrouver un idéal originel qui n'est pas forcément d'idéal original. C'est-à-dire que l'idéal n'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait trouver dans le passé, n'est pas quelque chose qu'on trouverait dans la version première de l'islam, donc la version de Mohammed, mais plutôt un idéal qui se trouverait dans le présent et dans l'avenir. Ensuite, il compare ce fondamentalisme progressiste à un fondamentalisme réactif. Ce fondamentalisme réactif, pour Souleymane Bachirdian, a horreur du temps. Il estime qu'au contraire, l'idéal de la religion se trouve dans le passé, donc la version originale de l'islam, donc la version prophétique de l'islam. Donc aujourd'hui, justement, Souleymane Bachirdian insiste hein, sur le fait qu'on a des versets dans le Coran qui insistent sur le fait qu'on rejette toute tendance à rester fidèle au Père. Et il y a une actualité aujourd'hui de cette attitude. On est aujourd'hui appelé, encore une fois, à sortir de l'enfermement dans la tradition de nos pères. Alors, donc voilà pour la sunna des pieux prédécesseurs, des ancêtres. On va passer maintenant à la sunna Allah dans le Coran. On a vu que la sunna al-awwalin, elle était qualifiée d'éphémère dans le Coran, vouée à disparaître et à se transformer sans cesse. On a un autre type de règle, par contre, dans le Coran, qui serait au contraire destinée à durer indéfiniment, et qu'il s'agit donc de faire durer, qui persisterait au-delà du temps. Il s'agit donc de cette fameuse sunnat Allah, cette règle de Dieu. Mais comment peut-on définir cette règle de Dieu? Alors, je vous ai mis les versets qui évoquaient cette coutume divine, cette règle divine. Alors, ces versets sont les suivants. C'est là certes était la coutume de ceux de nos messagers que nous avions missionnés avant toi, et tu ne trouveras pas d'alternative à notre coutume. Aucun grief contre le prophète à l'égard de ce qu'Allah lui a imposé conformément à la coutume qu'Allah a établie pour ceux qui ont vécu autrefois. L'ordre d'Allah est un décret mesuré. Selon la coutume qu'Allah a établie envers ceux qui ont vécu autrefois, et jamais tu ne trouveras de changement à la coutume qu'Allah a établie. Et là je vais surtout à la fin du passage. Alors jamais tu ne trouveras de changement dans la coutume d'Allah, et jamais tu ne trouveras d'incohérence dans la coutume d'Allah. Telle est la coutume d'Allah, qui auparavant avait certes prévalu, tu ne trouveras jamais de modification à la coutume d'Allah. Donc là, on insiste hein, sur le fait que cette coutume, elle, ne change pas, n'est pas soumise au temps qui passe. Alors la compréhension, je veux dire la plus fondamentaliste, la plus littéraliste, c'est de comprendre cette loi divine, comme étant parfois assimilée à la notion de charia, voire elle est parfois confondue au corpus de jurisprudence et au fiqh musulman. Alors bien sûr, ces éléments-là sont un peu anachroniques, puisque ce corpus justement juridique a été rédigé bien sûr plusieurs siècles après la révélation. On peut se poser la question, mais à quoi la révélation au 7e siècle fait-elle référence quand elle parle de cette sunnat Allah, de cette loi divine? Alors, je fais une hypothèse que je soumets à votre discussion, bien sûr. C'est que, selon moi, la sunnat al-awwalin dont il était fait question auparavant, je le vois comme la lettre de la loi, de ce qu'on entend en général comme la lettre de la loi, que j'associe à un sens, on va dire, extérieur, au dahir, et qui s'adapterait aux conditions de chaque époque. Donc la lettre de cette loi, elle est très souvent caduque aujourd'hui, puisque les conditions, le contexte a changé. La sunnat Allah, pour moi, c'est davantage l'esprit de la loi, que je vais plutôt associer au sens caché, au batin, l'esprit qui peut toujours être d'actualité, puisque c'est à nous, justement, de définir cet esprit et de le réactualiser aujourd'hui. Je m'inspire pour dire ceci sur une citation d'Henri Corbin, dans son ouvrage En islam iranien, qui dit la chose suivante. L'exégèse symbolique spirituelle s'attache au maintien simultané de la lettre, le dahir, et de son sens caché, le batin. Car c'est à cette condition que l'apparence littérale devient transparence d'un autre monde. Mais cette transparence ne se produit que par l'écran de la lettre. Les livres saints racontent des événements dont la geste extérieure, c'est-à-dire l'histoire, le dahir, se présente comme accompli dans le passé. Ils mettent en scène des personnages, des faits et des gestes, des figures du passé. Il faut cependant que ces événements et ces êtres aient un sens différent de celui qu'ils auraient s'ils figuraient simplement dans un livre profane. S'ils ont un sens pour la vie et la mort de celui qui les lit, c'est qu'ils ne sont pas simplement des événements du passé, des événements enregistrés dans des chroniques. Le cinquième imam, Mohammed Bajir, déclarait avec force à ses familiers. Si la révolution du Coran n'avait de sens que par rapport à l'homme ou au groupe d'hommes à l'occasion desquels tel ou tel verset fut révélé, alors tout le Coran aujourd'hui serait mort. Non pas, le livre saint, le Coran est vivant, jamais ne meurt, ces versets s'accompliront chez les hommes de l'avenir comme ils se sont accomplis chez ceux du passé. Alors, à travers cette citation, il y a vraiment cette idée, cette volonté de revitaliser à chaque génération le texte coranique. Donc, de poser de nouvelles questions, toujours de nouvelles questions au texte coranique. Le but, donc, c'est de ne pas s'arrêter à la lettre du texte. Et moi, ça me fait penser à un passage de la Bible des Corinthiens qui dit la chose suivante: la lettre tue, l'esprit vivifie. Cependant, tout ça ne nous dit pas comment on peut définir hein, cet esprit de la loi, comment l'interpréter et selon quels critères. Cette loi divine, selon quels critères est là exactement? Si ce ne sont pas des critères de ceux des ancêtres, qui ont été définis par les ancêtres, ce ne sont pas des critères d'un consensus humain, puisque c'est une loi divine. Donc, que reste-t-il parmi ces critères? Est-ce que ces critères, ça ne peut pas être, par exemple, ceux de la raison humaine, du discernement de l'être humain, lorsqu'il fait justement l'effort de penser par lui-même, et non selon des critères extérieurs, ceux des ancêtres, ceux de tout système extérieur? Et justement, ceux qui imitent le passé dans le Coran sont qualifiés, ceux qui imitent la sunnat al-awwalin, sont qualifiés dans le Coran de ceux qui ne savent pas. Ou encore ceux qui ne raisonnent pas. John Dewey, d'ailleurs, hein, estime que toute habitude servile et enracinée s'éloigne de la raison et de l'intelligence. Ça désigne ceux qui ne raisonnent pas par eux-mêmes, donc avec le terme coranique, un aql, qui est dit très clairement dans le Coran. Or, raisonner, c'est justement faire preuve de discernement, c'est savoir faire le tri parmi les coutumes, par exemple, des coutumes anciennes. C'est être capable de prendre du recul par rapport à ses habitudes enracinées qui seraient parfois trop ancrées dans des habitudes un petit peu mécaniques. Et pour moi, l'esprit d'une loi, le sens profond d'une loi, ne peut être trouvé que par un effort de raisonnement, justement, mais c'est-à-dire d'intelligence, d'abstraction de l'intelligence humaine, et par un effort de recherche du sens profond d'une coutume. C'est cette intelligence qui va nous aider hein, à essayer de trouver, à faire cet effort, de trouver ce sens caché, de donner un sens caché à une règle. Donc il n'y a que, selon moi, cet effort d'interprétation personnelle, hein, d'ijtihad, qui peut nous permettre de sortir, en tout cas de prendre du recul. Et je fais une autre hypothèse, c'est que, selon moi, la sunnat el-awwalin, ce serait plutôt l'hétéronomie, enfin, une incarnation de l'hétéronomie, c'est-à-dire d'une loi qui vient d'une contrainte extérieure, qui vient de l'extérieur. Ça peut être soit la famille, une ethnie, une religion, etc. Et par négativité, je me demande, bah, du coup, la sunnat là, qu'est-ce que ça peut être? Et si ce n'était pas l'autonomie, c'est-à-dire la loi qui vient d'une contrainte intérieure, celle que l'on se définit soi-même. Alors, au premier abord, pourtant, une loi divine est justement extraordinairement transcendante, extérieure. Donc, on peut tout de suite se dire, bah, c'est une hétéronomie, ça vient vraiment de l'extérieur. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si la loi divine n'était pas au contraire, ne pouvait pas être au contraire immanente et était synonyme d'autonomie. Alors je me base en fait là-dessus sur la conception de Dieu de Mohamed Iqbal. Pour Iqbal, le Coran a donné le nom d'Allah à l'ego ultime, à ce qu'il appelle l'ego ultime, c'est-à-dire le soi. À ne pas confondre avec le moi qui est soumis à sa petitesse, à ses intérêts personnels, mais un soi qui serait fortifié, complet et réellement humanisé. Pour Mohamed Iqbal, le moi devient le soi lorsqu'il prend conscience en fait du trésor qu'il porte en lui-même, lorsqu'il se comporte vraiment comme un être humain, donc lorsqu'il utilise notamment son raisonnement et son discernement, et lorsqu'il exerce sa liberté. Si l'on suit Iqbal, pour lui Allah c'est le soi, on peut dire la sunnat Allah pourrait donc se traduire par la loi du soi. C'est-à-dire que la source de cette loi divine serait le soi, autrement dit, donc l'autonomie. Mais, donc encore une fois, c'est quelque chose de très sensible, puisqu'il ne faut pas confondre non plus avec la notion d'ego ordinaire. L'ego ordinaire aussi peut être contraint par des contraintes extérieures. L'ego, on ne sait pas inconsciemment, on peut toujours être contraint. C'est-à-dire par un intérêt, un attrait, un désir, un conditionnement intérieur, inconscient, familial, etc. qui peut être difficile hein, à discerner. Tandis que cette sunnat al-awwalin est la loi où, dont le critère est donné par ce qui est extérieur à soi. Que dit le Coran justement sur cette loi divine? Le Coran dit qu'elle est inaltérable, qu'on ne peut pas la changer, qu'on ne peut pas la permuter. Le temps ne l'abîme pas. Et justement, la raison aussi fait partie de ces facultés humaines, cette capacité de l'être humain de discerner et de distinguer les éléments d'un problème. Bien entendu, les critères de vérité, les critères du bien ou du mal vont varier avec le temps, mais le processus de raisonnement, c'est-à-dire ce potentiel de raisonnement et d'intelligence, ne varie pas tellement au cours du temps, puisque ça fait partie quand même de notre nature, j'ai envie de dire, d'un réflexe naturel. Ensuite, l'autonomie en tant que telle, ça pose bien sûr plein d'autres questions. Est-ce qu'on peut réellement être autonome, c'est-à-dire ne jamais être soumis à des éléments extérieurs? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque aussi de l'anomie, c'est-à-dire l'absence de normes, l'absence de régulation? Alors, bien sûr, hein, l'autonomie en soi pose beaucoup de problèmes, c'est difficile, ça s'apprend. Mais peut-être que cette notion de sunnatullah nous enjoindrait à faire cet effort de discipline personnelle, d'essayer de faire un retour en soi-même pour distinguer les choses. Et je finis ma présentation par justement l'attitude du prophète qui, selon moi, était proprement autonome, puisque lui-même allait chercher les réponses en lui-même, par lui-même, à travers ses inspirations personnelles, à travers la révélation aussi, mais qui est passée à travers lui. Donc il y a quand même cette idée qu'il y a toujours un effort d'introspection qui est fait. Et en plus, il n'avait pas le choix, j'ai envie de dire, de trouver de nouvelles réponses à son époque, puisqu'il n'y avait encore à ce moment-là pas de religion islamique à proprement parler. Donc il était vraiment le créateur d'une nouvelle religion et d'une nouvelle norme. Voilà, donc tout ça pour peut-être réfléchir sur cette idée d'imiter davantage la disposition d'esprit dans laquelle était le prophète, plutôt que, encore une fois, le contenu de ses réponses et le contenu à la lettre de ses réponses. Ouais. Merci de votre attention.
Merci.
Merci.
C'était vraiment intéressant. Est-ce que le peuple en a parlé en premier, donc, qui aurait peut-être une remarque, une question, quelque chose à...
Alors, comme par hasard.
Antoine.
Alors moi, je suis qui notait tout ce que tu as dit. Ça répond à beaucoup de choses que j'avais dans ma tête avant de venir. Je trouve que on est très en phase, quoi. À quelques petits détails près, je vais essayer de préciser. Mais donc sur cette histoire de sunnat, comme une application, une nécessité d'appliquer quelque chose dans le monde. Et je crois que l'islam, c'est un peu une dimension, toujours une dimension pratique aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement une théorie, machin, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Et qu'à un moment, donc l'époque du fiqh et de la sunna, ça, c'était une nécessité dans le nouveau monde musulman de refaire à la fois une nécessité d'avoir une loi et à la fois une nécessité d'appliquer l'islam, qui sont un peu mélangées, mais qui sont un peu divergentes. Mais donc, c'est vrai qu'il y a une fossilisation à garder celle-là pour toujours, puisque c'est celle d'un moment. Là-dessus, on est d'accord. Complètement. Mais après, c'est un peu dans le Coran aussi des fois ce qui donne un peuple. C'est-à-dire qu'un peuple se définit par, il a pris une divergence, il a pris une façon de faire, de réaliser une loi dans le monde, et il reste dessus, et c'est un peu ce qui fait de lui un peuple, comme les juifs ou les chrétiens. Et que justement, Abraham, c'est le, avec ce musulman Hanafa, c'est un peu celui qui n'a pas de peuple, ou qui est sorti de son peuple, et donc a trouvé indépendamment de... Et là, on retrouve un peu ce que tu dis sur les contraintes extérieures, c'est-à-dire que c'est vraiment une contrainte interne, logique. Il a choisi sa voie à l'encontre de son peuple, des dimensions extérieures, pour quelque chose de nouveau. Mais c'est là où moi j'ai une toute petite différence avec ce que tu dis. C'est pour moi, c'est ça l'immanence. C'est-à-dire qu'un peuple qui se fossilise, il a une nécessité d'avoir des lois, il a une pratique. Sa pratique, elle vient de sa façon de vivre. Donc ça, c'est l'immanence, ça vient vraiment de la terre, de ce qu'il veut faire. Et c'est une contrainte externe, parce que le peuple, une fois qu'il a élaboré sa contrainte, il l'applique sur tout le monde, tous les individus, et ils sont soumis là-dessus. Et Abraham, il essaie de s'en sortir. Et pour moi, c'est là que Dieu est transcendant, c'est-à-dire que Dieu est extérieur, mais il est même extérieur au peuple. Il n'est pas seulement extérieur à l'individu, mais il est même extérieur au peuple, et même extérieur à la terre qui porte le peuple. Et même extérieur à l'univers. Donc la transcendance divine, elle, pour moi, c'est une extériorité qui permet de relativiser l'immanence, le peuple et tout ce qu'on a autour de nous, et de faire du coup, et de réappliquer sa propre logique, ou la logique divine, ou sa propre logique, et de refaire quelque chose de neuf. Donc c'est là que, juste sur ces deux petits termes, que j'étais un peu... Et après, du coup, je me demande, parce que, donc pour moi, c'est ça qui est qu'apporte le monothéisme par rapport au reste, c'est cette possibilité de extérioriser, donc de refaire une nouvelle loi. Donc pour moi, dans l'islam, on est vraiment dans retrouver une nouvelle pratique à chaque fois par rapport à notre société. Mais il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que il y a un paradoxe là qu'on a avec le texte qui dit qu'on a une sunnat Allah qui est permanente. Mmh. Et là, c'est une pratique aussi, on a l'impression. Et c'est là, on se dit, alors est-ce que c'est une pratique parfaite, un peu inatteignable, qu'on peut dire chacun essaie d'appliquer à sa façon, à son époque, mais il l'atteint vraiment jamais? Ou est-ce que c'était une façon de faire, de dire, voilà, les juifs et les chrétiens, ils ont eu leur propre sunnat, mais nous, on propose de revenir à une sunnat originale. Donc c'est pour réduire celle des chrétiens et donc permettre de refaire quelque chose de nouveau. Mais il y a un paradoxe, à mon avis, à éclaircir. Hein,
ouais, je suis bien d'accord par rapport à ça. Mais en fait, il y a même y a des éléments qui se contredisent même à certains moments. Alors, je ne sais plus lesquels, mais il y a certains moments où la sunnat Allah est la même pour les musulmans, les juifs et les chrétiens. Et il y a certains moments, on a l'impression qu'effectivement, elle vient... c'est pas celle des juifs et des chrétiens, c'est au contraire quelque chose qu'il faudrait retrouver encore de manière plus originelle. Et effectivement, mais ça c'est quelque chose de pas du tout résolu. Hein. Enfin,
la question...
Justement, est-ce que c'est pas cette idée-là de continuer à la renouveler de la même façon que le Coran a nous a demandé de revenir à quelque chose de plus originel que les juifs et les chrétiens, mais aujourd'hui on doit revenir à quelque chose de plus originel que les musulmans.
Il
y a toujours
dans cet état
d'esprit.
Ça marche aussi.
Juste
l'arabe, le verset.
Lequel verset? Moi j'ai noté tous les versets, il y en a 9, où il y a le mot explicitement. Sunnatullah. Sunnatullah. Alors, rappelle-moi le verset.
L'intajida les sunnatullah et tabdila.
Ouais, parce qu'ils le disent à plusieurs. Ouais, mais comme c'est à plusieurs reprises.
Oui, il y en a 5 ou 6.
Oui, il y en a plusieurs.
C'est la 48-23.
Oui,
oui, oui. 48-23, c'est sourate al-Fath. Sourate al-Fath. Sunnat Allah, allati qad khalat min qablu, wa lan tajid li sunnat Allahi tabdila. C'est celle-là ?
C'est celle-là.
Parce que tu en as une autre qui ressemble.
Khalat min qabl.
Et celle-là, elle est très souvent.
Khalat min qabl, wa lan tajid.
Khalat,
c'est
khalat tout à l'heure.
Khalat,
mazat.
Mazat,
tu l'as dans. Passé, elle est passée. Khalat, c'est dans khala, vide.
Mm-hmm.
Vidé. C'est comme si que sunnat là, elle a été vidée de son sens.
Ouais.
Et qu'il faut remettre le sens.
Alors, ça, c'est une question qui sera posée à des linguistes, mais, enfin à des grammairiens, mais le mot sunna est écrit avec un T marbouta.
Oui, c'est avec ça. Un T marbouta. Alors, je sais pas pourquoi.
Mais il y a des mentions où le T est maftouha.
C'est pas assez. C'est une manière d'écrire, ça. C'est vrai que c'est.
Oui, mais c'est, vous êtes une des copistes.
Mais quand il n'y a pas le tashkik, quand il n'y a pas le fatha, le kasraf, le tel maftouha, c'est comme la tamarbouta.
J'ai une proposition de réponse là-dessus, par rapport à l'hébreu, justement.
Ouais.
Est-ce que le T marbouta, c'est un T? C'est un T.
Le son, tu veux dire?
Non, la lettre.
Ouais.
La lettre, en hébreu, dans la grammaire hébraïque, on retrouve ça dans la grammaire arabe aussi, mais l'explication n'est pas la même. Dans la grammaire hébraïque, quand un mot féminin, par exemple, ou un mot qui finit par un T, donc c'est un Tav en hébreu, mais c'est un T en arabe, donc qui est en général la marque du féminin. Quand il est à l'état, ce qu'ils appellent l'état construit en arabe, c'est ibaf, murakab ibafi, c'est-à-dire que c'est le complément de nom. Le complément de nom. Donc le premier mot est à l'état construit, on dit. C'est le idaf. Et le mot daf, il est. Donc le premier mot gouverne le deuxième. C'est. Le complément de chien, le complément de nom en français, le chien de la dame par exemple. Donc le premier.
Sunnatahu. Pour faire entrer
le Sunnatahu, voilà. Donc le T se transforme. Oui, voilà, le se transforme en ha.
on secoue.
Non, en hébreu. En hébreu, on change quand à l'état construit, on le remplit. Non, c'est non, c'est le contraire. En hébreu, ça finit, le féminin se finit par un ha. Un he. Donc, et quand il est à l'état construit, on le remplace par un t, un tav. Un t. Voilà. Et c'est la même chose. Donc, parce que quand on a la tal marbuta, c'est le h, parce qu'on a rajouté les deux points.
Ouais.
Donc, c'est un h en fait. Et quand on prend dans le tajoué, on prononce h, on le prononce pas t, on le prononce h. On ne prononce pas suna, on prononce suna.
Ah, ça vient de là,
quand on s'arrête, on dit suna. Donc, effectivement, c'est comme en hébreu. C'est un peu compliqué, mon truc. C'est comme en hébreu, c'est bien H, en fait. Donc, et on le transforme, quand c'est à l'état construit, on le transforme en T. Donc, et c'est pour ça que c'est un...
C'est un T.
Voilà, oui. Moi, je n'ai pas essayé de faire ce que j'ai dit.
Non, si, mais...
C'est le passage de Khair au T. Tandis que dans la grammaire arabe, ils ont confondu les deux. Ils n'ont pas dit on remplace le Khair par un T. Mais ils ont dit c'est un tel marbouta. Mais en fait, ce tel marbouta, c'est un...
D'accord. Ouais, merci.
Je ne sais pas si c'est clair.
Ça change le sens de...
Non, c'est simplement la déclinaison, en fait.
Quand on voit en arabe, c'est vrai que c'est drôle parce que si on devait écrire en arabe, quand on écrit sunna, on écrit tel marbouta. C'est systématique. Et puis là, quand on regarde dans le Coran, parce que je ne crois pas avoir vu le mot sunna écrit avec un tel maftouha ailleurs que dans le Coran.
Ah, un thème ah non, ailleurs.
Si, quand tu mets par exemple tu mets le complément qui est un pronom personnel, affixe, tu transformes en thème. Sonato.
Non, mais ça, je ne parle pas de ça, je parle quand ça finit.
Sonna, ça s'écrit comme ça.
Oui.
Quand ça se finit.
Marbota.
Comment c'est pas mettre sonato
sonna. On peut écrire comme ça avec ta.
Oui, non, c'est pas ça que je dis.
Enfin, c'est un petit peu là. Juste. J'ai une petite remarque à faire. Parce que par rapport aux mots qu'on disait, khalat et mavat, et c'est vrai que quand je regarde, là, parce que je regarde les versets, juste avec les mentions du mot sunna, je les ai en arabe, et tu t'aperçois qu'il y a une mention de mavat, dépassé, et puis la plupart du temps, c'est khalat. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est le rapport avec le khalat, parce que le khalat, c'est le vide.
Elle est vide ou elle est vidée.
C'est-à-dire que cette notion de sunna, quand on parle d'une sunna dépassée, on parle d'une sunna
qui est vidée.
J'ai presque envie de dire anéantie au sens le plus strict du terme, rendue à l'état de néant, de khalat, de vide. Parce que néant, ce que c'est le vide. Mais je trouve que ça m'intéresse, ça m'a interpellé en parcourant là rapidement. C'est juste une dernière chose par rapport à sunnat Allah. Souvent, en tout cas, je sais que dans le mutazilisme ça a été le cas, on a identifié sunnat Allah aux règles de la cosmologie en fait. Ce qu'on appelle qada ou qadar, décret. Alors, quand on dit décret destiné dans la pensée sunnite, on dit que tout est écrit. Les Tazilites ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et les Tazilites, à la limite, si je devais traduire qada ou qadar en français, mais d'un point de vue mutazilite, on pourrait plutôt dire décret et mesure. Qadar dans le sens de mehu al-qadar. Quelle est la mesure de toute chose? Autrement dit, c'est un peu l'idée que Dieu a structuré l'univers. Donc il a mis en place une structure. Et puis cette structure, elle fonctionne avec juste des mesures de ce qu'il faut, d'éléments, de différents éléments. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si je m'assois ici, c'est parce que Dieu a décrit que moi, j'allais m'asseoir sur cette chaise et pas là-bas. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est à l'encontre des qadari.
Justement, le problème, c'est que le terme de qadari, qadar, c'est un terme qui peut vouloir dire mesure en arabe, qui peut vouloir dire capacité, possibilité, mais qui peut aussi vouloir dire quelque chose comme destin, pratiquement. Et du coup, le terme à l'origine décrivait les partisans du serre-arbitre, c'est-à-dire que Dieu décrit tout. Et puis après, il a été plutôt attribué aux partisans du libre-arbitre. L'arabe, c'est compliqué comme langue. parce que le même mot servait à désigner deux positions antagonistes, mais par aujourd'hui, si vous lisez dans les livres, on dit lui c'était un kadarite, on sous-entend que c'était un partisan du libre arbitre et non pas du. Le kadar, ça veut aussi dire capacité, possibilité de. Donc ouais, c'est un terme qui est vraiment. Et pourquoi je parle de ça? Parce que tu as parlé d'immanence tout à l'heure. Et dans cette question-là de règles de Dieu qui ne changent pas, ben là on a des règles cosmologiques, le monde fonctionne et on apprend. Grâce à nos capacités de connaissance, on peut prendre connaissance du monde, comment il fonctionne, les règles, la thermodynamique, la gravité, etc., etc. Donc on apprend, on sait comment le monde fonctionne, on sait que ça ne changera pas, ça persiste. Et du coup, ça c'est du macro, mais si on devait le rapporter au micro, c'est-à-dire si on devait prendre ce fonctionnement cosmique et puis voir comment ça se traduit à l'échelle la plus microscopique, c'est-à-dire à l'échelle individuelle de l'être humain, là je trouve qu'il y a une sorte de pont qu'on peut faire avec ce que tu disais tout à l'heure par rapport aussi à la question de l'immanence et ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que moi je pense, enfin c'est un peu un paradoxe que j'admets, enfin c'est peut-être une contradiction mais que j'assume, c'est un peu cette approche de Dieu qui est à la fois immanente et à la fois transcendante, c'est-à-dire qu'on passe pour atteindre la transcendance, on passe par la forme d'immanence. Pourquoi tu rigoles? Ça va pas dire que je fais du perché, je crois. C'est pour ça.
Voilà, c'est bon, hein.
Deux petites choses que je voudrais ajouter. Je trouve extrêmement intéressant ce que tu as dit sur la signification de Al-Qadar, qui peut vouloir dire à la fois le décret et le.
La mesure,
la
capacité aussi.
Parce que je trouve intéressant qu'en fait deux courants ont essayé de définir, ont choisi une signification, alors que je pense qu'en fait, Al-Qadar, la signification, c'est les deux. Alors, c'est mon point de vue, hein. Parce qu'effectivement, Dieu sait tout, Dieu sait ce qu'on va faire, mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu sait ce qu'on va faire, que nous n'avons pas le libre arbitre de le faire. Donc. Je trouve très intéressant que ce mot ait deux significations, mais plutôt que de dire ben, la signification c'est celle-là, ou ah non, moi je crois que c'est celle-là, on peut très bien accepter les deux comme signification. Et à mon avis, c'est tout à fait cohérent. Dieu nous donne le libre arbitre. On fait ce qu'on veut, effectivement, Dieu sait ce qu'on va faire, et sans doute qu'il est là en train de dire. Mais bon, il le sait depuis le début.
Ouais, c'est ce qu'on appelle la préscience ou la connaissance préalable.
Voilà.
Et ça, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à comprendre. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité de ce truc. Parce que c'est le fait de dire que Dieu décrète tout. Dans la pensée sunnite majoritaire, Dieu décrète tout. C'est Dieu qui a décidé que je vais m'habiller comme ça, que j'allais mettre ça comme ça. C'est Dieu qui décide de tout parce que c'est Dieu qui crée les actes. Dans la pensée qu'on retrouve chez le Farabi, pas seulement chez le Mu'tazila, c'est le fait de dire que Dieu nous a donné le libre arbitre, et il sait que moi j'allais m'habiller comme ça, que je me suis assis ici, non pas parce que lui l'a décrété, mais il le sait comme conséquence de mon libre choix. Vous voyez ce que c'est? Moi, ce que je prends comme exemple souvent pour expliquer ça, c'est la question, je crois qu'on a déjà parlé, la question de l'éditeur et de l'auteur. L'éditeur d'un livre, il sait ce qu'il va y avoir dans le livre, il sait quand est-ce que le livre va sortir, mais c'est pas lui l'auteur du livre. L'auteur du livre, c'est l'auteur du livre. À la limite, là, on peut pousser encore dans la métaphore, c'est que l'éditeur, il peut parfois aider l'auteur en disant « Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça ?» Et là, on a dans le Coran, on a cette fameuse notion clé, c'est des ayats. Les ayats, c'est les signes, mais c'est aussi les versets. Et Dieu nous donne des ayats dans la vie, mais il nous donne des ayats, des balises. Si nous, on veut les prendre en considération, tant mieux. Si on ne veut pas les prendre, c'est notre responsabilité.
Il nous donne des pistes que si on a lu le Coran.
Pas forcément, parce que l'ayat, le mot ayat désigne verset, mais désigne les signes.
Des signes à celui qui veut bien les voir. Ou celui
ah bah, voir, c'est vraiment. Ça, c'est ça.
Mais il y a une vision naturaliste dans le Coran qui dit un peu que les signes, on les trouve aussi déjà dans la nature presque.
Ah, complètement.
Donc
complètement.
Comme Abraham, tu vois, il sort de chemin de son peuple tout seul, juste en observant.
Bah, Abraham, le récit d'Abraham, de comment il recherche Dieu et comment il arrive à Dieu, c'est un cas, c'est édifiant. Les questions qui se posent, d'abord le Dieu c'est le soleil, et ben non, le soleil il s'en va,
la lune.
Et puis après il finit par aller de plus en plus par un système vraiment où c'est lui qui réfléchit, on voit la réflexion d'Abraham, C'est vraiment c'est marquant.
C'est cette idée de prédestination libre-arbitre, ça s'explique aussi par le concept du temps qui n'existe que dans son relatif. Dieu est en dehors du temps. Oui. Donc si Dieu est en dehors du temps, forcément, il sait ce que l'on va choisir, dans le sens où, en fait, pour lui, tout a déjà été fait.
Et il faut voir ce que disent les théoriciens de l'astrophysique quand ils vous disent que le temps n'est pas linéaire, mais en fait, ça chamboule. Donc si Dieu sait tout, il sait que pour lui le temps n'est pas une linéaire, construction linéaire comme pour nous ça l'est, parce qu'on a une naissance, on a une évolution, puis on a une fin. Donc pour nous on voit les choses de manière ligne droite, alors que Dieu il est au-delà de la question de la ligne droite. Il voit que la ligne droite qui est pour nous est une ligne droite est en réalité un tout petit bout d'une boucle qui est elle-même au milieu d'une autre boucle et ainsi de suite. Enfin bon, alors là pour le coup je summon du perché. Perché, entendons-nous bien, c'est mystique.
Juste pour revenir au qadar, les actes. C'est-à-dire que les Mu'tazilites, eux, disent que c'est l'être humain qui crée ses actes. Yakhlaq, crier comme Dieu, il crée ses actes. Et que les Ash'arites et les autres ils disent non, c'est Dieu, il dit ça. Et surtout à l'époque Umayyad, quand il a tué le chef de Shibaki, il a jeté, il lui a dit c'est Dieu qui a décidé. Dieu, il a écrit que celui-là, je vais lui couper sa tête et je la jette. C'est pas de ma faute, c'est Dieu qui a écrit ça.
J'éclaire juste deux trucs vite fait. C'est juste que la grosse dispute là-dessus, c'était la question de savoir qui crée les actes. Ouais. Parce que si le Mu'tazila disait Dieu a créé le monde et a créé l'univers, etc., et il a créé les êtres humains, et les êtres humains, ils créent leurs actes. Et les autres, ils ont dit mais tu fais un deuxième créateur dans le monde. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur possible, c'est Dieu. Et si l'être humain crée ses actes, donc il y a un deuxième créateur, et ça contrebalance avec la transcendance divine, ce que les Mu'tazilites n'étaient pas d'accord. Mais il n'empêche que, du coup, cette question du mot « khalq al-af'al », donc la création des actes, est une question, enfin c'est quelque chose qui, même aujourd'hui, qui peut être rejeté, parce qu'on n'arrive pas à admettre que les êtres humains puissent créer leurs actes.
Eux, le libre arbitre.
Voilà.
Choisir
eux, ils vont avoir recours à un terme qui s'appelle l'ektiseb, l'appropriation. Ils vont dire c'est Dieu qui crée l'acte, mais l'humain s'approprie l'acte, et quand il s'approprie l'acte, il en devient juridiquement responsable, et donc il peut être jugé. Or, la question de la... Ça, c'est les Ash'arites, c'est les sunnites majoritaires.
Les Ash'arites, j'arrive pas à comprendre.
Ça
me paraît complètement illogique.
En cours à l'EPHE, je posais la question à Ben Khira, parce que du coup, d'un point de vue purement juridique, formellement, c'est-à-dire que l'être est responsable de ses actes, mais d'un point de vue ontologique ou vraiment métaphysique même, pas du tout, puisque l'acte, même l'acte de l'appropriation, est lui-même une création divine. Donc quand on regarde d'un point de vue théologique et d'un point de vue du sens, ça pose problème parce qu'en fait, à aucun moment, l'homme n'intervient ou n'engage sa responsabilité si on prend la théorie Ash'arite sunnite majoritaire aujourd'hui.
Comment ils font pour
concilier
ça avec l'enfer, etc.
Ah, mais justement,
c'est pas prédestiné à l'enfer.
C'est là le souci des Mu'tazilites.
Eux, ils disent
ils veulent enlever le mal.
Non, eux, ils disent, les Ash'arites, ils disent que les musulmans qui auront commis des fautes graves iront un bout en enfer, mais après, ils iront au paradis de toute manière.
Il y a aussi la différence entre les actes de bon et les actes mauvais. Ouais. Je ne sais plus quelle est la position, mais bon. Position consiste à dire que Dieu ne crée que les actes bons, mais par contre, les êtres humains créent les actes mauvais.
C'est la position Mu'tazilite.
Ça, c'est la position. Enfin, pas la position, mais plus. Non, ils sont plus dirigés vers eux. Ce qu'ils voulaient, Mu'tazilite.
Mu'tazilite, c'est le tahsin et le tarbih à l'aqlain. Ça veut dire que.
Pour eux, Dieu, c'est pas le mal.
Voilà. Non, pour eux, en fait, pour eux, l'homme crée les actes bons ou mauvais.
Oui, mais il y a une autre position encore.
Mais en fait, ça, après, c'est les. Chez. Voilà, j'y arrive. Les dualistes. Où on avait manichéen et autres, mazdéens, où il y avait effectivement l'acte bon venait du dieu bon, Ahura Mazda, et l'acte mauvais venait d'Ariman qui avait pris possession quelque part des êtres humains. Mais ça, c'est l'accusation que les gens qui étaient opposés aux Mu'tazilites lançaient aux Mu'tazilites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que après la question de. Il y a harmonie par contre quand. Ce que dit Mu'tazila par exemple. Si on agit correctement, on fait le bien, il y aura harmonie et complémentarité avec le sens que Dieu veut. C'est-à-dire que Dieu va nous dire de faire le bien, d'accomplir le juste, etc. Et si on fait ça, il va y avoir harmonie. Donc on aura répondu à l'appel, si on veut. Et c'est là où il y aura harmonie avec le fait que Dieu nous dit de faire le bien et qu'on fasse le bien, là, il y a une sorte d'harmonie, d'accord. Mais si on fait le mal, là, clairement, si on fait le mal, c'est pas Dieu qui a voulu qu'on fasse le mal, c'est nous qui le faisons tout seul. Et là, du coup, il n'y a pas harmonie, il y a une vraie séparation entre la volonté divine et puis la volonté humaine et l'action humaine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez proche, hein, ce que vous avez dit, mais c'est juste une petite nuance, quoi.
Après, il y a un truc aussi sur Kader, c'est que justement, dans les Kader, enfin, Dieu a décidé pour tout, il a ordonné toutes les choses, et tout l'univers suit ce Kader, sauf l'homme, en fait.
Oui.
Et l'homme, c'est aussi celui qui est dans un endroit où il n'y a plus de Kader, enfin, dans le bordel qu'il a foutu lui-même, quoi. Il est capable aussi de retrouver le Kader, c'est-à-dire qu'il est capable de faire abstraction aussi des décisions des autres hommes pour retrouver le Kader divin. Et là, il y a aussi une question de choix, et c'est peut-être ce qui est... J'avais une deuxième partie à dire tout à l'heure. Mais du coup, je voulais juste renommer un truc.
Oui.
Juste c'était quelque chose, c'est qu'il y avait, je viens de trouver sur un bouquin qui parle de Ibn Tufayl. Ouais, voilà, il a un espèce de prédécesseur à Robinson Crusoe. Justement, celui-là, il va le mettre aussi comme s'il était un peu tout seul au monde, ou dans une nature qui est toute fraîche.
Ouais.
Comme Robinson Crusoe qui va prendre le.
Mais Haï n'est pas le premier livre, hein. C'était tout un genre littéraire, ça.
Non, ça c'est le premier qu'il a écrit dans le domaine, pas le philosophique, voire enfin, mystique, exactement, c'est Avicenne, Ibn Sina. Qu'il a écrit Ibn
Yardan. Est-ce que vous voyez de quoi on parle ou pas du tout? Haï Ibn Yardan.
Haï vivant, fils de l'éveillé. Ça c'est symbolique en fait. Oui. Ibn Tufayl, par contre, lui, il lui a mis un cadre...
Attends, juste un truc.
Oui.
Ibn Tufayl, c'était un philosophe andalou qui date du 12e siècle. Qui
l'époque
était
arabe.
Non, arabe, c'est un siècle plus tard. C'est le 13e siècle, Ibn Arabi. Il meurt en 1240.
Oui,
Ibn Tufayl, il meurt dans les années 1180, un truc comme ça. Enfin, bon, il y a 50 ans d'écart.
Oui, c'est, voilà, c'est à peu près.
En fait, Ibn Tufayl a écrit un livre philosophique... Vivant fils de l'éveillé, Haï Ibn Yardan, et on dit d'ailleurs que Robinson Crusoe s'est inspiré de ça,
ouais.
Où il raconte l'histoire. Alors, on ne sait pas s'il est né par génération spontanée ou s'il est arrivé, il y a plusieurs hypothèses, où c'est un enfant qui arrive dans une île déserte où il y a que des animaux et il grandit tout seul. Et il grandit élevé par une gazelle, il me semble. Et du coup, il va par sa méditation simple, par l'observation de la nature, il va arriver à des conclusions proches de ce qu'on pourrait trouver dans la Révélation. Et jusqu'au jour où il va rencontrer quelqu'un qui va venir de la ville en exil dans cette île, et il va apprendre la religion formelle, etc. Et puis, enfin, il y a toute une histoire où ils vont partir vivre ensemble dans la ville, et puis ça va mal se passer, et puis après ils vont finir par revenir dans l'île, vivre retirés du monde. Voilà, c'est vraiment la structure en coup de pierre.
Ouais.
Mais ouais, pour savoir à peu près de quoi on
parle. Mais donc par rapport à notre sujet, là, juste c'est qu'on voit que dans le Coran, on a toute une description naturaliste et qui essaie de ressortir des traditions un peu juives et chrétiennes, des traditions, pas du message à dire. On a, nous, on essaie de parler ici de la Sunna, mais après on voit comment ressortir la Sunna, mais là, Ibn Tufayl, il se propose un truc aussi qui sort de la société pour pouvoir faire sa démarche philosophique, qui a été repris par Robinson Crusoe. Les Lumières, ça vient aussi à un moment où on découvre le monde entier, des gens qui sont en dehors de la société européenne et des mondes qui sont frais ou avec, comme les États-Unis, qui sont avec des sociétés différentes de la nôtre. Et c'est ça qui permet aussi un petit peu les Lumières de rechercher, de trouver un en dehors qui permet de repenser sa société à soi.
C'est aussi l'époque où on commence à parler de religion naturelle. À l'époque des Lumières, où là, ce thème, on a les déistes qui arrivent, qui commencent à émerger, cette figure où on finit par Galilée parle quand même du livre de la nature, que l'on retrouve dans la tradition musulmane, qui est Tabel Mandour, le livre perçu. Autrement dit, le livre perçu, c'est la création, c'est le monde, c'est l'univers, c'est tout ce qui est soumis à notre sens, puisqu'il fait partie du Kitab, comme il y a le Kitab al-Mastour. Kitab al-Mastour, c'est le livre aligné. Comprendre ici les révélations, hein, les livres au sens propre.
L'écriture.
Et le Kitab al-Mandur, le livre perçu, le livre qu'on voit. Et là, on est dans un contexte, et je pense que tu fais le lien avec la question du naturalisme, de la religion naturelle. J'ai des amis catholiques qui me disent que l'islam est une religion naturelle.
Ben c'est ce que disent beaucoup de musulmans aussi.
Oui, mais moi je le dis aussi.
La fitra.
Oui, mais c'est vrai que le thème naturaliste est quand même assez prégnant dans le Coran. Dieu jure par les montagnes, par la lune, par le soleil, par
les étoiles.
Pardon ?
Par les étoiles.
Oui, et là, du coup, c'est peut-être là aussi on peut voir la sonnette en bas.
Oui.
C'est
par l'étoile qui
voilà.
Disparaît.
Il y a, beaucoup de... Il y a beaucoup de... Il y a d'autres...
Oui, je voulais dire un truc sur la sonate Allah. Est-ce que la sonate Allah étant divine, est-ce que nous pouvons... Enfin, personnellement, ma réponse est non, mais je peux me tromper, sauf si on est vraiment très haut perché. Mais est-ce que
j'ai regardé direct.
Est-ce que la sunnat Allah, on peut l'appréhender nous en tant qu'humains? Et donc, à mon avis, non. Donc, on peut la ressentir, mais donc forcément, on doit d'une manière ou d'une autre la transposer si on veut l'appliquer. Et donc Dieu nous donne des indications hein, dans le Coran, dans la vie, etc., de ce que devrait être la sunnat Allah. Mais donc, j'ai personnellement aucun problème à dire que la sunnat Allah, c'est quelque chose d'inchangé, d'inchangeable. Mais on ne peut pas l'appréhender. Donc, vu qu'on ne peut pas l'appréhender tel quel, on peut en avoir des reflets, comme dans la caverne hein, de...
Platon, ou du Coran,
mais comme dans la caverne de Platon où on voit les choses en reflet, donc on peut en avoir des reflets, on peut essayer de l'appliquer et ça peut être la sunnah du prophète, ça peut être la sunnah des premiers, ça peut être notre propre sunnah en fait, pourquoi nous on n'aurait pas une, mais c'est la sunnah Allah en elle-même, elle est... J'ai donc aucun problème avec le fait qu'elle soit inchangée, inchangeable, éternelle. La seule chose, c'est que notre interprétation ou l'interprétation qu'on en a ne sera pas éternelle. Elle dépend de nous.
Mais là où je serais un peu plus positiviste, alors que je n'aime pas spécialement le positivisme, mais je pense que sonnat Allah est justement quelque chose qui est apporté dans notre connaissance. Et tout à l'heure, je parlais des lois de la thermodynamique, je parlais de la gravité, etc. Pour moi, hein, c'est une lecture, en tout cas, pour moi, c'est parlant parce que, vous savez, dans le moutazilisme, on parle aussi du tawalud. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, comme on appelle ça, je crois, les causes secondes. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, Dieu a créé l'univers, a créé le monde et tout ce qui... Et il a donné à tout ça des règles. Mais ça veut dire que si le soleil se lève tous les matins, c'est pas comme le pensent les acharites parce que Dieu, tous les matins, fait lever le soleil. Mais c'est parce que la règle, Dieu a mis en place une règle, et ce qui fait que cette règle, elle fonctionne. Donc il y a la révolution des terrestres, etc. Et ça veut dire aussi que quand il y a un tremblement de terre, c'est pas Dieu qui a décidé de punir les gens, mais c'est parce qu'il y a les plaques tectoniques qui se rentrent en contact. Et ça, oui, mais
c'est très intéressant ce que... C'est toujours intéressant ce que tu dis, mais... Merci. Parce que bon, dans ma vie première, j'ai fait ingénieur, où j'ai étudié la physique, etc. Et effectivement, la nature est régie par des règles, mais on ne les comprend pas. Enfin, ou plutôt, Newton a inventé la théorie, ou est venu avec la théorie de la gravitation.
A découvert, ou voilà, formalisé.
Il a formalisé la théorie de la gravitation, qui en fait est un reflet de la règle, on va appeler ça la règle divine. Limité à certaines limites. Einstein a invoqué a découvert la relativité restreinte qui étend la théorie de la gravitation à des limites extrêmes. Et maintenant, on en est à remettre en cause la théorie de la relativité restreinte, non pas dans les limites qu'elle était imposée, mais en allant encore plus loin, il y aurait une théorie encore plus compliquée. Donc effectivement, Dieu a défini des règles, et nous essayons de les comprendre, et petit à petit, on arrive à les comprendre.
Oui, mais c'est ce que je veux dire, notre compréhension, il ne faut pas l'avoir à un moment T.
Oui,
c'est-à-dire que la compréhension humaine, la raison humaine, c'est quelque chose qui est dynamique, qui évolue. Et c'est, par exemple, moi, il y a un truc, c'est bête ce que je veux dire, mais quand je prends l'avion pour aller en Tunisie, par exemple, et que je regarde ces avions, ou quand j'ai pris le A380, on se dit que c'est un bâtiment, le truc. Et on se dit, mais comment est-ce qu'un truc qui doit peser des tonnes et des tonnes, ça s'envole dans le ciel? Comme, enfin, et ça, comment on y arrive?
C'est
des lois de la physique.
Non mais
oui, mais pas bien pensé, sûr. Mais c'est vrai, t'as raison.
Non mais parce que si on prend, imaginez tu prends un bloc de pierre qui fait le poids de, imaginez tu prends un bloc de pierre qui fait le poids de la 380 et tu vas pas le jeter en l'air, il va pas faire Paris New York.
Heureusement que j'ai pas essayé de voler.
Non mais ce qui m'intéresse moi dans ça, c'est quoi? Comment on est arrivé à faire ça quand on regarde? C'est par la connaissance de ce Sunnatullah. C'est quand on sait que la loi, comment elle fonctionne, qu'on peut la contourner, qu'on peut... Et je crois qu'en filigrane... Bah, à bientôt, j'espère.
Oui,
bah,
à la prochaine.
Oui, bientôt, avec plaisir. Merci. C'est en apprenant à connaître et à déchiffrer cette loi, en comprenant que bah, y a une règle qui veut que si on met assez d'énergie... je ne suis pas... Il ne faut pas compter sur moi en science. Moi, je suis double zéro. Mais enfin, d'un point de vue du principe... Quand on maîtrise, on sait comment les règles fonctionnent, on sait la loi de la gravité et tout, bah c'est là où on peut la contourner. C'est exactement la question du rapport de l'homme à la technique, de manière générale, depuis le silex jusqu'à la fusée qu'on est en train de préparer pour aller sur Mars.
Jamais au bénite, c'est toujours la nuit. Donc voilà, et forcément, si on veut respecter l'esprit du message, il faut, j'avais dit créer notre mais ça revient un peu à ça, créer notre propre sunna comme tu as fait avec ton collègue et adapter les règles de la sunna du prophète à la réalité du monde où on vit.
Il y a des ulémas qui se sont penchés sur cette question-là, ils ont donné des réponses.
Il y en a qui ont dit qu'il fallait suivre le pays le plus proche où il y avait des heures. Ou les pays d'origine, ou alors il y en a qui ont même dit qu'il fallait jeûner pas en une moyenne. C'est-à-dire que là où il y a 6 mois de jour et 6 mois de nuit, bah, on va dire que la journée moyenne c'est 8 heures de jeûne, bon bah tu jeûnes 8 heures. Quoi. Commence à 10 heures, tu fais bon allez à 18 heures je bouffe. Et après je me dis, après tout.
La question après par contre, ça veut dire qu'il y a sunna, je pratique notre sunna, etc. Si je ramène ça dans le personnel, dans l'individuel, une personne comme ça, cette personne-là qui habite dans le Nord, etc., qui s'est posé la question, il a posé la question à qui? Donc à quelqu'un qui connaît mieux que lui, c'est ça.
Mais qu'on connaît quoi?
Voilà, c'est ça. Est-ce que pourquoi nous, on n'a pas cette espèce de ijtihad personnel?
Oui, mais c'est ça. Là, j'allais justement rappeler ce qu'avait dit Eva tout à l'heure, c'est la question de l'autonomie, en fait.
Voilà,
mais au sens autos, donc soi-même, et nomos, la loi qu'on s'impose à soi-même. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qui...
Pas besoin que je le hadith tel ou tel se verser.
Oui, je pense que la solution idéale,
ça serait... Je suis là, je ne vais pas appeler quelqu'un le déranger, bon, je vais essayer de trouver moi-même quelque chose qui peut être...
Pour moi, la solution idéale, c'est d'aller voir dans le texte et voir ce que le texte m'inspire à moi, qui vit, moi, cette condition-là. Et qu'est-ce que ça m'inspire et quelle est la décision que je prendrais qui laisserait mon cœur en paix?
Quel est le sens que tu donnes? Je sais pas, je pense que le sens, c'est plus le sens que tu donnes.
Ah oui, mais ça, c'est
toi, ton sens personnel.
Moi, je veux prier Dieu ou je veux appliquer quelque chose que Dieu veut. Dieu m'a mis dans ce. Enfin, m'a mis. Je suis arrivé moi-même là, mais Dieu le sait que je suis dans un environnement un peu hostile par rapport aux lois décrites.
Hostile, mais difficile.
Bah, difficile, on va dire, ou d'une manière ou d'une autre. Oui, désolé, mon français, je ne suis pas francophone nature. Donc, je traduis dans ma pensée. Donc, des fois, je traduis mal, excusez-moi.
Moi, non.
D'accord, donc c'est un environnement difficile. Pourquoi je vais aller revenir à lire, à passer du temps à lire? C'est difficile. Hein. C'est, bon, quelqu'un, sincèrement, je veux trouver la bonne solution. Il faut que je lise tout le Coran, toutes les tafsirs, tous les machins, qu'il y a des ceci, qu'il y a des cela. Et c'est là que je me retrouve à me perdre, à me dire, ah non, 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 il me faut un imam qui va m'expliquer comment je dois agir. Mmh. Moi, je ne vais pas lire tout ça, je l'ai pour moi. Mmh. Alors, c'est pas, on l'a tous, chacun de nous. Je ne sais pas, il a quelque chose en nous qui s'appelle fitra. Mmh. Comment ça en français? Instinct.
Non,
oui. Attends. Oui. Ça rapproche à l'instinct.
Non, c'est un peu la nature originelle. Oui. C'est pour faire de fermenter un peu.
J'ai la capax DI.
Pour ça, j'ai deux choses.
L'état de nature.
Je veux, moi, faire plaisir à mon Dieu.
Le bon sauvage de Rousseau.
Par un acte. Je définis cet acte, je l'applique. Peu importe s'il est bon ou pas bon, c'était moi. C'est pas valable peut-être pour toi. Il est dans le même lieu, il est dans le même la chambre voisine. Tu me dis, attends, tu fais ta prière maintenant, moi je vais la faire après. Bon. On n'est pas dans cette obligation d'être tous sur un même cadre, en fait, trop cadré, parce que ça peut t'arranger toi, mais ça peut ne pas m'arranger moi. après ça c'est juste réflexion.
Après, c'est encore un autre paradoxe parce que on reparle aussi d'une nature originelle, un peu comme la sunnate originelle d'Allah. Et c'est aussi, attends, pour moi c'est aussi un paradoxe dans ce que tu disais, parce que tu fitra, ouais, et c'est un peu atemporel, alors qu'on disait que
elle finit pas, il n'y a pas de.
J'avais bien aimé un truc que Elsa disait dans son discours, et c'était sur il y avait un aspect historique et un aspect non historique. Je crois que c'était à la fin, dans le que le fondamentaliste progressiste, je crois qu'il était historique, alors que l'autre il était anhistorique. Et pour moi, la fitra, et ben c'est encore quelque chose d'anhistorique parce que c'est un truc qui n'existe pas en pratique. Enfin, tu vois, c'est ça qui est compliqué. C'est que tu n'as pas d'histoire d'élaboration.
Par exemple, si on comprend le fait de découvrir son attendre-là comme le fait de réaliser son libre arbitre, c'est-à-dire de découvrir en soi, justement, son autonomie, en fait, de découvrir ses propres règles qui sont nécessairement liées à celles de ce qu'on appelle Dieu. Mais du coup, cette fitra, cette nature originelle, eh ben, c'est mon autonomie. Et donc, en comprenant tout ça, ben, je pourrais en pratique être libre et être en accord avec ces lois qui m'environnent. Donc, à travers ça, je peux peut-être faire la synthèse entre justement ce côté immanent et transcendant, entre mon autonomie, mes impératifs pratiques, comment en fait, en gros, je vais incarner ma vie.
C'est l'harmonie du micro et du macro.
Oui, c'est ça. C'est un peu la libération par la connaissance dont parlent certains philosophes. Mais ça a une portée énigmatique, en fait. Parce que le libre arbitre, c'est quelque chose de pratique aussi. Sinon, c'est vrai que ça n'a pas de sens.
Mais chacun va avoir son niveau, enfin entre guillemets, je veux dire, on retrouve ça dans d'autres mouvements philosophiques, la voûte étoilée, la terre, etc. Et on va trouver son juste milieu. Et chacun va ajuster suivant les conditions qu'il va rencontrer, temporelles, spatiales, même si ça n'existe pas.
Pourquoi ça n'existe pas?
Tout peut exister. Oui. Il n'y a pas de limite à la création.
Mais après, ouais, je crois que ce que tu dis, ça m'a mis sur quelque chose de vrai. T'as raison, mais alors du coup, on a quand même un espèce de paradoxe entre liberté et pas liberté, parce que si la liberté, c'est de se mettre en harmonie avec le monde, bah, c'est pas une liberté. Et c'est là où justement j'avais quelque chose, c'est que il y a aussi l'armée, la miséricorde divine. Excuse-moi.
Non.
Et que cette idée, c'est que
l'arabe, c'est moi qui tiens.
Des fois, l'homme fait des choses de lui-même qui sont pas forcément prévues, mais que Dieu va accepter. C'est-à-dire que l'homme, il fait pas toujours n'importe quoi. Des fois, il peut créer des choses nouvelles ou faire des choses qui n'étaient pas dans l'intention de Dieu, mais que Dieu va dire, bon, allez, c'est pas grave, je vais lire celle-là, on peut passer à la suite. Et par exemple, dans le Coran, il reprend plein de textes apocryphes. Textes apocryphes, ils ne sont pas forcément dits par des prophètes ou ça, ils sont peut-être racontés juste par des hommes qui les ont écrits, qui ont écrit de la philosophie. Et des fois, Dieu reprend dans le Coran leurs idées. Et donc, je pense que des fois, tu vois, l'homme ne se met pas seulement en accord avec le monde autour de lui, mais des fois, il peut faire de lui-même, il peut créer quelque chose.
Il n'y a pas forcément cette césure entre le monde autour de l'être humain et l'être humain. Et la question de la liberté, si on comprend l'autonomie comme la découverte de ses propres lois, et ben, c'est vrai qu'il y a une question, une idée un peu de nécessité, mais ça n'empêche pas du coup de penser le fait que découvrir sa loi ou ses lois, ben, ce sera le vecteur de sa liberté, mais dans ce cas-là, la liberté va avec nécessité, quoi. C'est pas opposé. La liberté s'inscrit dans une nature, en fait, qu'on découvrira à nouveau.
Et du coup, on peut la dépasser, peut-être. Oui, voir, alors, à partir du moment où on a accepté ses nécessités, on peut aller au-delà. Avec le mec qui dit tout le temps, bon, j'ai besoin de manger.
Oui.
Il sort jamais du truc, fois que tu dis, bon, voilà, j'ai besoin de manger, je mange. Et après, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? C'est peut-être un peu ça. L'homme, il devrait se demander, maintenant que je découvre mes lois, maintenant que je suis autonome, maintenant que j'ai grandi, que l'humanité a grandi, qu'est-ce qu'on peut faire d'extraordinaire? Est-ce qu'on veut aller sur Mars? Est-ce qu'on veut donner à manger? Est-ce qu'on veut voyager, faire des villes sous l'eau? On pourrait s'autonomiser un peu.
Oui, mais c'est ça, c'est en fait ne pas s'enfermer dans des cadres conceptuels qui sont illusoires, en fait. Mais c'est une question de conceptualisation qui est illimitée ou pas limitée, que la nature de l'être humain est de s'épandre toujours davantage, quoi. Au lieu de se limiter.
Dans un cadre fermé, une tradition, voilà. Un machin, on peut essayer de.
C'est ça. Et qui sera qui est forcément illusoire. Hein.
Vous changez toutes les habitudes.
Vous buvez tous le café sans sucre ici.
Ouais.
On a oublié le sucre.
C'est pas grave.
Et j'ai des chocolats, tu peux mettre du chocolat.
Ah ouais.
C'est du café filtra, Sofiane. C'est du café.
Café original. Oui.
Mais si dans ta sauna tu mets du sucre, vas-y, tu peux.
Voilà, j'applique la sauna.
Mais t'as pas de sucre alors.
Pour cette histoire de sauna ou ifetra, ifetra dans son sens instinct ou allié dedans, quand Eval disait l'autonomie, donc ça vient de toi, donc allié en toi quelque chose que tu développes, que tu, ou que ce baten aussi, elle a dit baten, par opposition à daher, baten
c'est l'intérieur,
l'intérieur bah, daher visible, invisible, visible ou...
Ésotérique et exotérique, généralement.
Parce que ça serait pas mal. Sunnatullah, c'est l'instinct fait par la Kona, qui dit Sunnatullah, c'est Aïbadé. C'est-à-dire tout. Tout les humains.
Sunnatullah, c'est Aïbadé.
Aïbadé. C'est encore, hein. Vas-y, cher, vas-y, tu vas
regarder. J'ai noté.
Rien que la vie qu'on a,
merci.
Voilà.
Parce
que ça fait ça. Et Sunnat al-Awwalin qui t'a enlevé ou à l'épartée, qu'elle n'est plus à l'écadique ou quelque chose comme ça, c'est tout simplement l'interprétation au ta'wil al-fitra. Ta'wil, le sens de l'instinct, enfin, le mettre en pratique, je veux dire, en société. Parce qu'individuel, c'est un peu normal, il n'y a pas Ayyub Nuirdan, quoi. Tu trouveras tout seul, il n'y a pas de souci. Mais du moment qu'on est entre nous, qu'il y a des règles, il y a quelque chose, donc on essaie. On essaie de trouver, d'interpréter cet instinct pour créer des lois et des mesures entre nous, sociologiques. Et du coup, on peut se tromper dans ces lois et qu'avec le temps, ça peut changer.
Écoute, et il y a encore un autre paradoxe, c'est que là, c'est le filtre.
D'accord, tu fais mille gens.
Non, je te jure, je t'écoutais.
Oui.
C'est qu'aussi cette fuite train.
Ouais.
Ah, tu vois, c'était encore de la fuite train, c'est qu'il me dit, proposait un verbe pour mettre le noyau et je lui ai dit non, je vais le planter.
Ouais, après c'est vrai. Quand
non, mais le tendance, pardon, c'est que cette fuite train, tu vois, qui est censée être originelle, là on était un peu un historique et tout ça, il faut quand même la travailler pour y revenir. C'est comme on fait dans les arts martiaux, dans le sport.
Ouais.
Le mouvement le plus beau, le plus simple, le plus efficace, il te demande 10 ans de travail.
J'aime bien ton idée depuis tout à l'heure d'exercice. Tu parles beaucoup de ça. De s'exercer, enfin que la sunna, vraiment la notion de sunna, c'est un exercice, c'est pratique en fait. Et je pense que c'est vraiment au quotidien en fait qu'on peut affiner, essayer d'améliorer notre capacité à ajuster les choses et à essayer d'être en accord justement avec cette fitra. Et c'est aussi, en plus, ce qui est marrant, c'est que dans le shem, dans le sanana de sunna, enfin la racine arabe, il y a l'idée de polissage, de polir, de déguiser. Je crois que c'est. Il me semble que ça fait mention aux dents, enfin isnan, enfin les dents, la dentition. Et t'as vraiment l'idée de polir quelque chose, de rendre de plus en plus beau, en fait. Donc t'as l'idée d'exercice au sein même du terme de sunna. Et je trouve que c'est intéressant de cette idée, en tout cas, ouais, de s'exercer quotidiennement, quoi.
Mais donc nous, est-ce que justement, si on fait ça, on reprend pas la sunna des anciens, où on a vu qu'ils ont dû faire cet exercice, on critique, et puis on avance dessus, ou on recule sur certains. Enfin, est-ce que c'est pas un exercice aussi, on peut le voir à l'échelle humaine, c'est-à-dire qu'on essaie de créer une loi musulmane ou islamique, ou je sais pas, une façon de vivre. Une façon de vivre en société, et qu'on peut la parfaire, et parce qu'on l'essaye, on voit qu'elle a des défauts, on la corrige, on la réessaye, on la recorrige, on la réessaye. Et au niveau de l'humanité, pas seulement de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas une notion collective dans la sunna aussi?
C'est vrai que, par exemple, quand je dis ça, pour moi, c'est avec le fait de justement toujours dans cette idée d'autonomie, tant de l'individu que de la société, des espaces sociaux, c'est de se déprendre des contraintes qui s'exercent sur nous, donc on peut comprendre aussi comme s'émanciper des structures bon, sociale, étatique, etc., d'oppression, enfin, ça peut se décliner en fait à des niveaux économiques, politiques et sociaux, en fait, justement, compris à l'émancipation.
Après, c'est vrai qu'il y a aussi une pratique collective qui existe et qui serait dommage de supprimer sous prétexte qu'on veut passer à l'autonomie spirituelle. Je pense que la pratique collective elle doit aussi évoluer. La pratique collective est complètement figée. Et s'il y a uniquement des individus qui évoluent en marge de cette pratique collective, c'est dommage de ne pas, pas pouvoir aussi bénéficier du collectif. Donc il faudrait aussi penser à renouveler la pratique collective, à la faire évoluer.
Et en même temps, la pratique collective.
Ou en proposer plusieurs.
Elle évolue. Parce que nous, le fait qu'on soit réunis, c'est.
Non, la pratique religieuse.
Oui, mais là, en fait, justement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire d'avoir une pratique religieuse en fait, qui.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est
bien, on est dans la réflexion. Mais,
oui, mais ça participe. Tu peux pas segmenter.
Il y a la prière, tu vois, collective.
C'est une activité, ça, c'est le rite. C'est une activité spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est à l'esprit au sens le plus strict du terme.
Si.
Ouais, non, mais toi, t'es. Ouais. On se comprend.
Et en termes musulmans, en fait, c'est pas permis.
Oui, voilà.
C'est répréhensible, c'est pour ça en fait, que c'est verrouillé de façon à ce qu'il n'y ait pas de.
Mais aller plus loin, étant de ça, la prière, l'évolution du cadre extrêmement figé de la prière collective.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, Anne-Sophie, parce qu'effectivement, je pense que la notion, mais tu en parles aussi de peuple, enfin, j'aime pas trop l'idée de peuple, parce qu'on n'est pas un peuple dans le sens où on n'est pas du même lien biologique, entre guillemets, mais en tout cas de confraternité, on va dire. On peut pas être tout seul en fait. Effectivement, le but n'est pas chacun fait comme il veut, on s'en fout des autres, etc. Chacun est de manière isolée un électron libre. Le but, hein, c'est de faire fraterniser, on va dire, des autonomies. Après, la grande question, c'est comment faire fraterniser des autonomies, c'est-à-dire comment ne pas avoir l'impression d'être complètement seul dans sa réflexion, etc. Et de pouvoir trouver, des endroits, par exemple, c'est un peu aussi l'objectif de l'association, hein, c'est de pouvoir former un endroit où on peut réfléchir là-dessus. J'espère à terme aussi pratiquer ensemble, mais d'essayer, qu'il y ait toujours cette dimension collective. Parce que sinon on évite, ça fait vite électron libre, et je trouve que c'est pas, au bout d'un moment, c'est plus très constructif, quoi.
Mais je pense qu'il faut d'abord que tu le fasses d'abord en vertical. Toi, pour qu'après ça soit en horizontal.
Oui.
S'il n'y a pas un travail horizontal, vertical au départ, tu auras beau avoir 10 000 personnes autour de toi.
Mais c'est une expansion naturelle un peu, c'est-à-dire que c'est comme l'histoire de petit grand jihad, c'est que tu commences les choses par toi.
Oui.
Il faut bien que tu les appliques à toi avant de pouvoir l'essayer en pratique, en parler aux autres, comparer, essayer
tout
en
fait.
Ça. Mais tu dis que dans le monde arabe c'est figé. Mais ici, on vit un peu quelque chose de pareil, c'est-à-dire qu'on a eu l'époque des Lumières, on a eu un grand renouveau, une nouvelle idée, comme une conscience qui repense le monde. Et après, ça s'est incarné, ça s'est mis en pratique, on a eu la démocratie représentative et trucs. Et là, on voit bien que ça s'est figé, c'est devenu une tradition. Il y a, en pratique, ça ne correspond plus au projet initial, tu vois. Bon, il y a eu l'acquis, on n'a plus le projet initial. Et ça se fige, et ça se crispe, et ça devient problématique. Et il faudrait le repenser, le renouveler par rapport au projet initial, ou par rapport à notre situation ou au futur qu'on envisage. Donc le monde arabe est figé sur l'idée musulmane, qui est, c'est vrai, la sunna est très vieille, mais nous on a une figée sur un truc qui a maintenant 200 ans, mais qui commence aussi à se bloquer, tu vois, qui est difficilement remettable en cause en pratique. On a le droit d'en parler, mais on n'a pas vraiment le droit de.
Qu'est-ce qui est figé ici?
Ici, par exemple, on avait l'idée des lumières, de la démocratie, de l'intérêt général et de la volonté.
La collectivité aussi.
La collectivité, ça se met en place, on fait des règles nouvelles. Il y a eu un grand bouleversement, on l'a mis en place, ça a changé le monde, on est dans le progrès, tu vois. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est notre façon de faire d'Européens, tu vois, maintenant ça se fossilise, c'est la France, c'est l'Europe, on est le peuple aussi, et la démocratie, elle existe encore, mais elle est vieille, elle est ancienne. Concrètement, ce que toi tu veux n'a aucune influence sur ce qui se passe en général. La volonté collective n'a plus d'influence sur la volonté de l'État. Donc tu vois, ça s'est fossilisé en une tradition, mais il y a des gens qui en ont pris qui l'ont mis et ça ne peut plus bouger. On ne peut pas me dire ouais, la démocratie aujourd'hui.
Est-ce que c'est le projet d'améliorer la démocratie en fait dans la spiritualité démocratie, c'est pas
forcément un exemple, c'est un exemple, comment ça se fige, deux cas différents, mais il y a un nouveau mouvement qui arrive.
C'est le propre de l'existence humaine.
Je veux dire que le système dont on avait figé, je dis
fabrication humaine. C'est que tout système, au bout d'un moment, va se figer, même si le système est au départ bon. C'est normal, mais le but, c'est d'essayer de... Voilà, pas que ça se solidifie pendant trop longtemps, en tout cas. D'essayer de modeler en permanence.
Et dans le monde musulman, justement, on y vient, en fait. Il y a les printemps arabes.
Non, mais justement, il y a des éléments.
En France, je parle même pas du monde musulman. Si tu vas dans n'importe quelle mosquée pour faire ta prière rituelle, t'as intérêt d'être dans les clous, quoi. Parce que sinon, tu fais pas le feu, quoi.
Ouais, parce qu'il y a, de toute façon, il y a un discours qui s'est tellement imposé, qui est tellement naturel, entre guillemets.
Mais est-ce que chez les soufis, justement?
Même chez les soufis.
Non, mais la plupart des soufis, ils sont rentrés dans une alliance objective avec l'orthodoxie, entre guillemets, depuis des siècles.
Mais depuis longtemps.
Depuis des siècles. Et ce qui fait qu'en fait, les soufis, ils vont tous commencer par te réciter la doxa générale commune admise par tous, avant d'après rentrer dans d'autres considérations. Mais alors que eux avant n'étaient pas du tout dans cette doxa-là, justement.
C'était plutôt un peu des anarchistes, en fait.
À la base, oui.
Ils étaient absolement contre l'alliance et compagnie.
Même la Baladawi, est-ce qu'elle a... T'imagines la Baladawi, les récits qu'on raconte sur elle, si aujourd'hui une femme qui se balade avec un seau d'eau pour éteindre l'enfer et puis une torche pour allumer le paradis, mais elle serait lapidée tout de suite. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre ce qui est vraiment, quand on parle de soufisme, vraiment dans l'aspect, moi je trouve, qui est le plus marquant, le plus fort, le plus puissant, audacieux. Et puis après, petit à petit, il est rentré dans les clous. Et ça, c'est un truc qui est arrivé à peu près à... Quand t'as un discours qui est soutenu par la politique et qui s'impose comme doxa officielle, il impose ses règles à tout le monde. D'ailleurs, même le moutazilisme. Le premier moutazilisme, le dernier moutazilisme, c'était quand même assez différent. Quoi.
Est-ce qu'on doit accepter finalement d'être des marginaux, d'être minoritaires
Mais finalement... c'est la grande leçon de Platon. On en revient à la fameuse caverne. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit, Platon, dans l'allégorie de la caverne? Il dit, au final, celui qui a vu la vérité et qui voit et qui essaie de prêcher aux autres et puis il se fait jeter parce que les autres ils refusent, il est condamné à quoi, au final? Il est condamné à la vie contemplative. Et c'est Ahay ibn Yarvan. Quand il retourne dans l'île pour vivre isolé, parce qu'au final, tu t'aperçois qu'il y a un moment donné, alors ça, c'est la question qu'il faudrait poser par rapport à la question de la sunna aussi, qu'on aborde, qu'on adopte, c'est quand à un moment, le message ne passe pas. C'est-à-dire que c'est pas... Même tu dis la vérité, même tu es bien intentionné, même, à un moment, le risque, c'est que le message ne passe plus. Et que là, qu'est-ce que tu fais?
Même au jeté.
Certains vont dire il faut quand même, d'autres diront à quoi bon.
Mais c'est encore une fois, moi ça me fait toujours penser à toute posture prophétique. Tout prophète au début s'est fait traiter de fou, d'anarchiste, de révolutionnaire, de vouloir supprimer l'ordre établi. et t'as toujours dans toutes les vies de prophètes cette persistance, on va dire, à essayer de quand même tenir bon et être toujours là et à réussir finalement à, on va dire, changer les choses. Et
ça, c'est une leçon qui est aussi dans la Bhagavad Gita, parce que à un moment donné la leçon, c'est écoute, tu dois planter l'arbre, plante l'arbre. Ne te soucie pas du fruit. Le fruit viendra en temps voulu, s'il doit venir, et puis s'il ne vient pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de planter l'arbre.
D'agir sans attendre des résultats.
Bah oui, c'est fait.
Là, on est. En fait. Est-ce que ça ne sert à rien de prêcher?
Oui, voilà.
Pour pratiquer, puis le reste va m'aider.
C'est d'être exemple et pas de faire la leçon. Voilà. C'est de faire et pas de dire aux autres, faites comme j'ai envie. Ouais, donnez l'exemple.